Deutsche Welle. Pulsation.
Du 23 au 29 mars, c'est la Museum Week, la semaine du musée dans le monde entier. Après les destructions d'œuvres d'art et l'attaque dans le musée du Bardo en Tunisie, nous nous demandons aujourd'hui ce qu'est un musée. Cap ensuite sur le Bénin à la rencontre du directeur de l'École internationale de théâtre du pays. Et pour finir, hommage à Harry Rowohlt, le petit-fils du fondateur d'une des plus grandes maisons d'édition d'Allemagne, fête ses 70 ans. C'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
Le saviez-vous ?
Le musée. On se souvient, fin février, des destructions de trésors archéologiques dans le musée de Mossoul en Irak et plus récemment, il y a une semaine, de l'attaque contre des touristes dans le musée du Bardo de Tunis. Mais un musée, qu'est-ce que c'est exactement ? Le Conseil international des musées, l'ICOM, a fixé une définition qui désormais fait référence. Un musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Une définition qui n'existait pas encore évidemment à l'heure où le premier musée voyait le jour. C'était en 280 avant Jésus-Christ en Égypte. À Alexandrie, plus exactement, sur les bords de la Méditerranée. En Égypte, mais créé par un grec, d'où la racine grecque du terme musée. Museion, c'est ainsi que l'on appelle ce premier exemplaire qui n'est autre qu'un temple et lieu consacré aux muses. Or, les muses, dans la Grèce antique, sont les divinités des arts. Ce bâtiment, construit par le roi Ptolémée I, fait office à la fois de sanctuaire et de laboratoire de recherche pour les intellectuels et les savants. Philosophes, astronomes, géographes et j'en passe. Le concept moderne du musée n'apparaît que 1700 ans plus tard, au XVe siècle, à la Renaissance, notamment en Italie, où les princes ont les premiers l'idée d'exposer dans les cours, les jardins et les galeries des œuvres d'art, des tableaux et des sculptures à l'attention des visiteurs de haut rang qu'ils accueillent. On parle alors de muséum. Et oui, on est passé du grec au latin. Hégémonie oblige. Aujourd'hui, ce terme n'est plus utilisé en français que pour les institutions vouées aux sciences naturelles. Le collectionnisme fait son apparition avec le faste que connaît l'Église, puis on redécouvre les trésors de l'Antiquité. Les voyages d'exploration et les découvertes d'autres cultures sont aussi une source pour mettre sur pied des expositions. À l'heure actuelle, les 32 000 musées membres du Conseil international des musées collectent, conservent et exposent à travers le monde dans tous les domaines. Les sciences naturelles ou humaines, l'art primitif, moderne ou avant-gardiste, l'ethnographie, la technologie, etc., etc. Cette semaine, une action autour des musées a lieu à l'échelle internationale. D'ailleurs, sur le continent africain, concernant les pays francophones, la fondation Zinsou à Ouida au Bénin, le musée Mohamed VI à Rabat au Maroc et normalement le musée du Bardo de Tunis en Tunisie participent à cette initiative. Vous trouverez des précisions sur le net museumweek2015.org. Vous êtes toujours à l'écoute de Pulsation sur la Deutsche Welle. Nous nous rendons à présent à Cotonou, au Bénin. Le Bénin, un grand pays de théâtre. La preuve en est non seulement son festival biennal de théâtre international, le FITEB, mais aussi son école internationale de théâtre. Créée en 2004, l'EITB en est à sa troisième promotion et attire de plus en plus de candidats de la sous-région. Le fait est que la formation qu'elle propose est excellente, comme nous confie Alouk Bindine, comédien, metteur en scène et fondateur de cette école qu'il dirige. Je l'ai rencontré en marge du festival.
Ce n'est pas une formation que de comédiens professionnels, mais c'est en même temps une formation où le comédien devient un homme cultivé. C'est-à-dire qu'il touche aux 10 métiers à peu près qui composent le théâtre lui-même, bien qu'on les spécialise en jeu d'acteur. Pourquoi ? Tout simplement parce que nos pays sont tellement pauvres en ces différents métiers,
oui,
qu'il est important de les outiller sérieusement afin que eux-mêmes ils puissent s'en sortir demain. S'ils n'ont pas une distribution au théâtre en tant que comédien, qui puisse être peut-être régisseur sur un spectacle, ou scénographe sur l'autre, costumier par-ci, ainsi de suite, ou qui puisse même aider à rédiger des projets, ou carrément administrer un spectacle, parce que c'est tous ces outils qu'on leur donne.
Donc finalement, le nom ne correspond pas complètement à la formation que vous leur donnez, puisqu'on dit école de théâtre, mais c'est bien plus que ça.
Oui, c'est beaucoup plus que ça. Eux-mêmes, ils disent aux gens que c'est carrément l'école de la vie. Parce que mieux, j'ai acheté un champ entre Feuve et la Mer, et on cultive de la banane, et le jour où on est allé récolter pour la première fois des bananes plantains très très grosses, quoi, ils étaient heureux, ils ont publié sur le net. Parce que, aussi, il y a une chose importante à dire, ils vivent en internat. De plus en plus, les gens perdent la notion de vie de troupe. La troupe, ça n'existe plus tellement, parce que chacun forme sa compagnie, et c'est dans son sac, et quand ils arrivent à avoir un financement, ils appellent des gens et ils montrent rapidement le spectacle. Il n'y a plus cette vie communautaire dans une troupe.
Combien d'étudiants à chaque promotion?
C'est 12.
Ils sont choisis sur quels critères?
Nous choisissons les meilleurs dossiers. Nous axons nos actions singulièrement sur le Bénin, le Togo, le Niger et le Burkina Faso. Nous passons dans chaque pays maintenant pour faire des auditions. De toute façon, on choisit les meilleurs parmi les bons. Parce que le créneau, c'est apprendre pour répandre. Former des gens dans des compagnies pour que, de retour dans leur compagnie, ils puissent répandre les fruits de leurs connaissances.
En tout cas, ça fonctionne. Moi, je peux en témoigner puisque lors des productions de la Deutsche Welle ici à Cotonou, beaucoup de vos anciens élèves sont parmi nous et parlent les textes et jouent la comédie au micro. Je viens d'assister là à un spectacle donc, de rue qui s'intitulait comment ?
À la poursuite du temps.
Il raconte quoi ce spectacle ?
Ce spectacle parle de l'esclavage, de la traite des nègres et de la colonisation à la fois, avec une ouverture sur le monde moderne.
C'était une représentation donc de rue adaptée à la rue, adaptée aussi au public populaire, avec des danses, des chants, pas de paroles, tout était mimé. Et c'est quelque chose que vous affectionnez particulièrement, adapter vos idées théâtrales à la rue.
Oui, j'affectionne ça particulièrement parce que le théâtre souffre de public. Et ce public-là, il est dans les rues. Quand on ne les a pas dans les salles, je crois qu'il faut leur inculquer la culture théâtrale dans les rues, partout où les gens sont, pour qu'après, on puisse les accueillir dans les salles. C'est ça le but. Et singulièrement, parlant du spectacle, moi je pense tout simplement que l'esclavage, la colonisation, tout ça, c'est des choses qui sont essentielles à enseigner aussi. Partout où nous sommes passés, les jeunes étaient toujours les plus nombreux. Et ce qui est remarquable, les jeunes de moins de 20 ans sont beaucoup plus nombreux que les autres.
Vous avez de belles années devant vous avec votre école de théâtre.
Je crois bien. Et ce qui me fait plaisir, c'est que ceux de la première promotion ont aussi évolué. Il y a des gens maintenant parmi eux qui sont allés apprendre la pédagogie du théâtre, qui ont fait des masters. Et nous avons des relations avec une grande école française, l'ENSAT, où nous allons envoyer ceux qui sont sortis pour qu'ils apprennent davantage master en la matière qu'ils auraient choisie, pas forcément en comédie. Vous voyez ? Donc cela évolue et je crois que la relève est assurée. Même après moi, l'école continuera.
En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Beaucoup de courage encore dans votre entreprise et beaucoup de succès.
Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.
C'était Alouk Bindine, le directeur de l'École internationale de théâtre du Bénin. Pour ceux d'entre vous qui s'intéresseraient de plus près à l'EITB, comme on appelle cette école, qui s'adresse à la sous-région, consultez le site ateliernomade.org. Atelier Nomade, en un mot bien sûr.
Coup de projecteur.
Plein feu aujourd'hui sur Harry Revolt.
Die Dame sagte: Wer bist du, Junge? Was tust du hier? Ich versuche zum Teetrinken nach Hause zu kommen.
Cette voix, c'est celle d'Harry Revolt, il y a plus d'une dizaine d'années. et il ne s'agit pas d'un entretien, mais de lecture. Harry Revolt prête sa voix pour faire des livres audio. Pas étonnant qu'il soit actif dans le monde de la littérature, puisque son nom de famille, Revolt, est bien connu en Allemagne comme celui d'une des plus grandes maisons d'édition de livres de poche du pays. Son père, Ernst, en était le fondateur. Sa mère, elle, était comédienne. On comprend donc mieux son talent de lecteur. Né le 27 mars 1945, Harry fait une formation professionnelle chez l'éditeur allemand Suhrkamp, avant de se perfectionner dans la société de son père, depuis longtemps séparé de sa mère, et avec lequel il ne s'entend pas vraiment. Après 2 ans passés aux États-Unis, il revient en Allemagne et travaille en écrivant pour la publicité. Il refuse d'intégrer la firme de son père, qui décède en 1960. C'est dans la traduction qu'il va finalement trouver sa voie. Il transpose en allemand le livre pour enfants de l'écossais Alexander Neil, The Last Man Alive. Une œuvre pourtant considérée comme intraduisible et il récolte les louanges de la critique. Le début d'une grande carrière de traducteur littéraire qui, en 1999, va lui valoir un prix pour l'ensemble de son œuvre. Il avait alors traduit 99 romans, 3 pièces de théâtre et un scénario de film. Sa compétence en anglais, britannique, irlandais, aussi bien qu'américain, fait l'unanimité. Il a continué depuis. Outre la traduction, Harry Revolt se distingue aussi par des textes, des chroniques acerbes et formulées de main de maître, et surtout par son talent de lecteur et conteur. Il est capable de fasciner un public pendant des heures en changeant constamment d'intonation selon les personnages auxquels il prête sa voix.
Er hat sich einen neuen Namen gegeben: Égalité, Gleichheit. Irgendwie ein blöder Name. Und trotzdem wurde er einen Kopf kürzer gemacht.
Et comme dans cet extrait, Harry Revolt lit des textes qu'il a lui-même traduits. Et à 70 ans, il continue de le faire.
Gleichheit preisen die Gestirne. Und doch verlor er seine Birne.
Voilà, c'est la fin de ce numéro de Pulsation. Merci de l'avoir suivi. Vous accédez au podcast sur notre site dw.de/français, rubrique podcast ou médiathèque. Nous nous quittons en musique avec cet extrait du nouvel album du Camerounais Blik Bassi que nous espérons bientôt recevoir pour en parler. Lon. I need a nimble spot.